L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, votre quotidienne sur Transistor. C'est le nouveau nom de Radio Évasion. Nous sommes en direct de midi jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Et puis, comme pour toujours, et bien sur Internet à radioévasion.net. Il arrive lors de discussions avec nos proches que l'on parle de travail. Pour ma part, il s'agit souvent des invités que l'on va recevoir ou des sujets que l'on va traiter. Et quand j'ai évoqué l'effeuillage, bien nombreux ont été ceux et celles qui s'étonnaient de faire une émission de 25 minutes consacrée à une technique spécifique de la taille de la vigne. Car d'après l'Institut français du vin et de la vigne, vous voyez, c'est quand même vachement sérieux, l'effeuillage de la vigne consiste à enlever les vieilles feuilles dites sénescentes afin de favoriser l'éclairement et l'aération des grappes. Cela permet une meilleure maturation des baies et diminue les risques d'apparition de certaines maladies cryptogamiques. Alors j'avoue, j'ai bien rigolé. Avec un peu de recul et analogie, je me suis dit que c'était peut-être la clé de ce qui explique toute cette discipline du théâtre burlesque. Sigrid, vous êtes adhérente de l'association Brest Burlesque Follies et vous allez tout nous dire sur le burlesque, les feuillages et puis aussi sur une école qui vient d'ouvrir à Brest. Bonjour Sigrid.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, très content d'être là.
Moi, je suis très content de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association?
Eh bien oui, du coup, c'est l'association Burlesque Brest Follies. Donc à Brest, on organise des shows burlesques tout au long de l'année, des festivals, des stages et maintenant une école, comme tu l'as bien dit.
Et c'est inédit dans le Finistère?
Dans le Finistère, oui. Par contre, en Bretagne, non. Dans le sens où c'est un peu dans les grosses villes que ça se passe. Après, je dis ça, il y a quand même Saint-Brieuc qui est concerné depuis longtemps en plus, avec notre diva à nous, Lola Rose, qui vient notamment faire les cours à Brest. Et il y a aussi des choses qui se passent à Lorient, à Rennes et à Nantes également. Mais ça, on fonctionne tout ensemble en Bretagne, on s'invite les unes les autres, c'est vraiment une bonne ambiance.
Ouais, vous êtes combien de l'asso?
Alors, on est 4 membres actifs, mais on est par contre une bonne flopée de bénévoles.
C'est vrai?
Ouais. On peut monter jusqu'à une bonne vingtaine, ouais, selon les événements. Là, par exemple, le gros festival qu'on a fait en novembre, c'était nécessaire qu'on soit autant.
Elle a été créée quand, l'asso?
L'asso, elle a été créée il y a 2 ans et demi, 3 ans.
Et qui est à l'origine du projet?
C'est Roule Simone qui est à l'origine
c'est
du
Roule
projet
Simone.
Avec Thelma Louison. Donc c'est leur nom de scène. Du coup, c'est nos deux fondatrices qui ont eu envie de lancer ça, notamment Roule Simone, parce qu'elle est allée jusqu'à Paris se former à l'école de Mademoiselle Loison, la Hall à la partie, pour apprendre tout ça et pour elle-même monter sur scène et amener ça jusqu'au bout du monde.
Qu'est-ce qui les a motivés à créer une telle asso?
Ça n'existait pas et ça avait l'air quand même super fun.
Juste ça.
Globalement, juste oui. Fun. Puis il y a aussi tout un message de confiance en soi, de changer les représentations des femmes, changer les femmes pour elles-mêmes, etc. etc. Ce qui fait qu'on abordera aussi dans la suite, mais qui est porté beaucoup à cœur de toutes les deux. Et de Roule Simone surtout.
Est-ce que vous connaissez la fameuse technique viticole alors?
Alors ça m'a bien fait rire et j'ai noté sénescente. Ouais. Je vais le garder ce mot, je le trouve très chouette.
Ouais, moi non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Sachez que les feuilles sénescentes peuvent aussi être très intéressantes sur scène.
Ouais, mais en fait ça me faisait penser moi à la petite feuille de vigne.
Oui.
Et je me suis dit, ah finalement il y a peut-être un
rapport.
Il y a
sûrement des numéros qui sont très vinicoles. C'est sûr, parce qu'en fait c'est très large, chacune vient raconter son histoire, proposer quelque chose au public, ça peut vraiment faire de la plante carnivore à l'exploratrice des fonds marins, à la capitaine de bateau, c'est très large, on peut vraiment aller où on veut.
On va en parler dans 5 minutes. C'est quoi les origines du burlesque?
Eh ben, c'est la fin du 19e siècle, oui, tout ça. Donc ça se passait, les gros questionnements autour de la femme, elle était très couverte au niveau de la bourgeoisie notamment. Montrer les chevilles, c'était pas possible. Montrer la peau, c'était pas possible de toute façon. Et il y a eu des femmes qui ont eu envie de s'émanciper de ça, en fait. L'évolution des consciences, tout bêtement, a fait ça. Et c'est un ensemble de petits éléments qui fait qu'on est arrivé à ce qu'il y a des choses qui se passent à Paris notamment, et aux États-Unis. Après, il y a eu les guerres qui ont un peu temporisé tout ça. Et une grosse reprise, surtout dans les années... les années 90 là, où il y a vraiment eu des femmes qui sont montées sur scène en proposant des numéros entiers, réfléchis avec de la comédie, de l'art de scène, des costumes, etc. etc.
Alors ça n'a rien à voir avec le burlesque de type Charlie Chaplin, ou par exemple... J'ai vu même des choses sur le Capitaine Haddock, par exemple, dans Tintin. En fait, le burlesque, à l'époque, c'était une espèce de perte de la dignité de la personne. Et là, on est vraiment... Le burlesque a vraiment changé.
C'est complètement l'effet inverse, effectivement. C'est complément du respectez-moi, respecte-moi public. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu es là juste pour ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a des spécificités dans ce genre de spectacle ?
Spécificité, qu'est-ce
que tu par exemple, et quelque chose qu'on ne trouve pas dans d'autres spectacles de...
On ne trouve pas beaucoup de nippies dans les autres spectacles.
Qu'est-ce que c'est ?
Les nippies, c'est ce qu'on... C'est souvent la tenue finale, on va dire, de l'artiste. C'est, évidemment, on ne monte pas les parties génitales, c'est aussi une différence avec le striptease, mais notamment, on ne monte pas non plus les tétons et les mamelons, et du coup, on a des caches, tétons et mamelons, souvent qui brillent, souvent avec des choses qui tournent. Et le grand clou du spectacle consiste à réussir à les faire tourner. Ce qui n'est pas si évident que ça.
Ah ouais, d'accord.
Bah, colle-toi deux petites gommettes avec des trucs qui tournent et essaie de les faire tourner en bougeant tes épaules. C'est...
Ma femme va être ravie, je pense. Alors voilà, donc justement, c'était ça, ce genre de petite spécificité. Alors,
voilà, par exemple, après, tout le monde ne finit pas comme ça.
Non.
Chacun amène vraiment son univers et ce qu'il a envie.
Il y a des limites.
Alors, la nudité, c'est pas le clou du spectacle, en fait, contrairement à la striptease. La nudité n'est pas le clou du spectacle. Il y a plein d'artistes qui finissent encore relativement habillés.
Oui.
Il y a aussi des artistes qui, en fonction de l'ambiance du public, arrêtent leur numéro, ne vont pas jusqu'au bout, alors que sur d'autres publics, elles pourraient aller plus loin. Mais on finit où, effectivement, la nudité n'est pas le clou du spectacle. D'ailleurs, on n'y arrive pas, techniquement.
On n'y arrive pas. Et je pensais à un truc, c'est par exemple le nom de scène. Alors, il y a des pseudos, par exemple, les acteurs au cinéma, ils ont un pseudo.
C'est vrai.
Alors, on dit quoi ? Les comédiens, on dit
les comédiennes ? Les performeurs.
Les performeurs, voilà.
Les artistes.
Les artistes, voilà, on va dire. Artistes, donc, les artistes qui œuvrent dans ce genre de spectacle, ils ont tous des noms qui font référence à leur petit monde.
Exactement.
Alors, vous en aviez donné deux, donc il y a Raoul Simon.
Voilà. Raoul Simon, en référence à toutes les Simones qui ont changé des choses dans l'histoire.
Oui, et puis l'autre, c'était
Thelma Louison, là, c'est une référence à ses chats, par exemple, parce que c'est important pour elle.
Moi, je pensais que c'était Thelma Louise.
Alors oui, aussi, mais effectivement, mais ses chats sont inspirés de Thelma Louise.
Alors, le vôtre, c'est quoi ?
Le moyen, c'est Miss Game Over.
Moi, j'adore.
Qui est un peu plus geek, parce que c'est plus mon univers.
Moi, j'adore.
On est sur un game over. Et voilà. J'aurais envie de représenter plus de pop culture, en fait, parce que c'est plus mon univers, plus les méchants, en plus.
Du coup, quand vous êtes sur scène, il y a une référence toujours à votre nom de scène ou vous bifurquez ?
Pas forcément.
C'est une aide un petit peu quand on démarre ?
Oui, par exemple, c'est un truc qui nous porte à cœur, je pense, de pouvoir se faire appeler autrement. C'est comme un pseudo, c'est toujours un peu rigolo. Et oui, ça aide un peu à savoir le public qui vient voir et quel est l'univers où il va être amené, mais on peut quand même proposer des choses surprenantes. On n'est pas attaché pieds et mains liés à notre nom. Puis il y a des noms qui n'ont pas forcément une grosse signification liée à une culture en particulier, par exemple.
D'accord. Alors j'imagine que vous êtes une toute petite structure, donc j'imagine que petit budget, et donc j'imagine que... Pour créer tout un spectacle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière.
Oui.
Je pense. Alors, je me disais que dans ce genre de spectacle, la pièce maîtresse, puisque j'imagine qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas vraiment de texte, le plus important, c'est choisir une bonne musique. Et puis après, il y a tout un tas de disciplines qui viennent se coller derrière. Alors,
la musique est effectivement très importante, parce qu'on voit bien que les musiques très entraînantes du public va plus s'accrocher. Il y a aussi des numéros très mystérieux. Et effectivement, il y a de la comédie, du théâtre, de la satire, du cirque pour certaines.
Par exemple,
du chant. Il y en a certaines, notamment au Champagne Mademoiselle qu'on a eu là en novembre, qui chante en live sur scène, en plus de ses feuillets. C'est quand même une sacrée performance. Chacune vient un peu avec ce qu'elle a de base. Il y a des danseuses, mais pas du tout le monde est danseur ou danseuse en burlesque.
Alors, de base, alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme...
Le chant, comme on disait, par exemple, la comédie.
Mais le chant, c'est pas tout le temps, c'est plutôt... Les feuillages, c'est plutôt quelque chose de silencieux.
Plutôt, ouais. Ouais, plutôt. Avec quand même des mimiques. Par exemple, c'est un peu l'art de la taquinerie, donc on va toujours un peu chercher le public. Sauf quand on fait des numéros très mystérieux, par exemple, mais c'est notre façon d'aller chercher le public. Mais non, il n'y a pas forcément... Non, le chant, c'est pas du lip-sync comme chez les drag queens, par exemple.
C'est quoi ?
Le lip-sync, c'est du playback. C'est quand on parle juste en bougeant les lèvres. Alors, ça peut arriver aussi en burlesque, mais ce n'est pas la majorité.
D'accord. Alors, quand on pense à burlesque, on pense à rigolade. Est-ce qu'il y a forcément de la rigolade ou est-ce qu'on peut aussi s'attaquer à des sujets assez sensibles ? Et je me demandais comment on écrit une représentation numéro,
effectivement, oui, on peut avoir des... Alors, burlesque, effectivement, ça donne un peu ce côté un peu gaguesque, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus récent, ça, dans le new burlesque, ce qu'on va beaucoup plus faire, nous, à l'association. Il y a le burlesque d'avant qui est très glamour, très plume, etc., très années 20. Et puis, il y a le néo-burlesque qui va plutôt chercher des choses humoristiques ou carrément, effectivement, des sujets sensibles. Et là, effectivement, c'est la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de raconter ou est-ce qu'elle a envie d'amener public. C'est quoi l'histoire ? C'est écrire une histoire, en fait. C'est du storytelling, si on veut... tout bêtement, dans le sens où on commence là, qu'est-ce que le public y comprend ? Est-ce qu'on est, je sais pas, par exemple, un exemple que j'ai en tête, c'est une femme qui a été laissée devant l'hôtel, quoi. Elle devait être mariée, puis en fait, son mec n'est jamais venu. Bah, comment est-ce qu'on fait comprendre ça au public ? Comment est-ce qu'après, on s'émancipe ? On se dit, ah bah, c'est pas grave, finalement, je vais faire ma vie et ça va être trop cool. Et on finit en faisant des gros fakes au public.
Bah, justement si, c'est la question que je me pose, c'est comment on fait ? Quelles astuces on a techniquement, j'ai envie de dire, quand on ne parle pas et quand l'accessoire principal tombe.
Alors, il y a beaucoup d'accessoires principaux, du coup, il y a beaucoup de choses qui tombent. C'est ça que je n'ai pas précisé, pardon. Le costume est composé de plein de pièces différentes qu'on ne présage pas forcément qui va tomber à quel moment, enfin, quel élément va tomber à quel moment, ni comment. Parce que nous avons des petits secrets de type pression et scratch qui permettent d'enlever les choses soudainement ou de venir un peu avec, par exemple, en dénudant une épaule, puis une autre, voilà, devenir un peu taquiner avec le public pour voir qu'est-ce qui va tomber à quel moment. Puis on peut être très surpris de, ah bah finalement, je pensais que c'était la grande écharpe qui allait tomber, et en fait c'est juste un gant. Et on peut faire déjà beaucoup de choses avec juste un gant, par exemple, en enlevant un gant.
Et c'est vous qui créez tous les costumes ?
La majorité des artistes, oui, créent leurs costumes elles-mêmes et passent beaucoup de temps à se tracer, à pimper, à coller des choses qui brillent sur multitude de supports.
Combien de temps ça prend pour un
heures,
numéro ?
Ça dépend le niveau qu'on a envie, mais c'est des heures, c'est incalculable en vérité.
Bah pour par exemple, un des vôtres, tiens, par exemple.
Alors moi, je suis en train de construire mes numéros, donc effectivement, je n'ai pas encore de numéros prêts, mais je suis déjà à plus d'un an passé, après je ne fais pas que ça de ma vie.
Bah oui.
J'ai beaucoup d'autres passions, mais voilà, ça peut durer des mois et des mois et des mois.
On peut savoir sur quoi vous travaillez ou c'est top secret ?
Je travaille sur un numéro plutôt pop culture, hein, plutôt d'une célèbre saga des années 80-90. Il y en a plusieurs, alors je laisserai le suspense.
C'est vrai.
Il y a plusieurs grandes sagas très connues.
Bah oui,
de la
pop culture. Plein. Et dans le milieu du jeu vidéo, dans autre chose, dans le cinéma.
Cinéma, pardon. Il y a dit saga, pardon, j'aurais pu. Ça peut être, mais ça, ouais, cinéma.
Ouais. Tu peux pas nous dire.
Ah bah non, ça, justement, faudra venir nous voir.
David, c'est très bien ça.
Il y a des lasers.
Oh.
Ça donne un gros indice. Hein.
Oh. Est-ce que par hasard on trouvera votre père ou un truc comme
peut-être.
Ça peut-être.
Ma mère, on ne sait pas.
Est-ce qu'il y a des libertés en tant qu'artiste ? Enfin, j'imagine que oui, mais...
Il n'y a que ça même, je pense. L'artiste fait exactement bien ce qu'il veut sur scène, propose bien ce qu'il veut en burlesque.
Est-ce que c'est plus dans le burlesque que, par exemple, dans un cabaret de type... allez, on va prendre les cabarets parisiens, ce qu'on pourrait avoir en image dans la tête, genre le Lido, le Moulin Rouge et tout ça. Est-ce que c'est une branche du cabaret, le burlesque.
On dit souvent cabaret burlesque, en fait. Le burlesque, c'est notre abréviation, mais cabaret burlesque, c'est l'ensemble.
C'est, selon vous, c'est plus cool, c'est plus libre que les autres types ?
Je pense que ça dépend vraiment comment on a envie de proposer des choses sur scène, en fait, en tant que personne. Les danseurs vont se sentir extrêmement libres de faire des choses que moi, vraiment, j'aurais l'impression d'être très contrainte en le faisant. Et moi, en faisant une grimace, je me sens plus libre que quelqu'un qui osera pas le faire.
Ouais.
Donc, ça dépend vraiment chacun. Je pense que chacun trouve sa liberté là où il faut. Et je pense pas que ce soit mieux ou moins bien, c'est juste vraiment différent, quoi. Plus ou moins libre, ça dépend vraiment de chacun.
Et vous arrivez à créer une interaction avec le public ?
Oui, on le dresse pour ça. On l'éduque, pardon.
Non, mais j'apprécie beaucoup l'humour, en tout cas. Ça donne une idée un petit peu du burlesque, pour le coup. Et du coup...
Et notre ambiance à l'assaut.
L'ambiance à l'assaut, ouais, effectivement. Et alors, comment vous faites des interactions directes, indirectes ?
En fait, on a toujours une ou deux maîtresses de cérémonie qui s'occupent d'expliquer au public pourquoi il est là. A priori, ça, elle le sait, mais qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire ? Quand est-ce qu'il faut qu'il crie ? Quand est-ce qu'il faut qu'il soutienne ? Parce qu'en fait, c'est un spectacle, le cabaret burlesque, où le public est très participatif. Donc ça change de tous les autres spectacles, donc c'est aussi ça qu'il faut expliquer aux gens. On demande que le public applaudisse, on demande qu'il crie, on demande qu'il fasse boubou. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de dire, comme à poil, par exemple. Ça, là, c'est banni.
Alors justement,
donc
c'est...
Donc on dit ce qu'il y a le droit de faire et de ne pas faire pour soutenir les artistes.
D'accord, donc le à poil, c'est non.
C'est
dehors. Alors comment ça se passe ? Il y a des gens qui, hop, dehors direct ?
Ça est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé qu'on explique gentiment aux personnes, elles ne comprennent pas. Il y a un moment, on les vire, en fait.
Deux fois,
parce que c'est pas possible, ouais. Parce qu'en fait, ça nuit à l'ensemble du spectacle, ça gêne tout le monde, ça gêne les artistes, ça nous gêne nous. Enfin bref, c'est mal placé et inconvenu, et ça n'a rien à faire là.
Exactement.
Donc si les personnes ne comprennent pas, eh ben c'est pas grave, elles sont.
Ça fait peut-être partie des difficultés, j'imagine. Le fait de se dénuder déjà un petit peu, c'est une difficulté. Le regard de l'autre.
Est-ce qu'il y a... Bah, il faut savoir qu'effectivement, on le sait, hein, qu'il y a une vision, les gens disent « Ah, c'est quoi la différence avec le striptease ?» C'est la première question. Et on explique tout de suite qu'il y a,
moi, j'ai pas
posé, il y a une bonne différence. Non, mais parce que tu es vraiment une bonne personne. Et puis un peu renseigné déjà à l'avance, mais effectivement, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils viennent voir. Ouais. Certains adorent ou sont choqués. Voilà, il y a des gens qui disent « Oh, c'est super, mais je ne reviendrai pas. » Parce que voilà. Et certains qui sont là à chaque show et qui se prennent leur billet sur toute l'année. Donc on a vraiment plein de publics différents. Et puis les gens qui viennent juste découvrir et qui accrochent. Ça, on a, c'est quand même la majorité, je pense. Parce que c'est toujours très intéressant de voir ce que les artistes proposent. Et oui, voilà. Par contre, on sait qu'il y a cette... la gestion de l'idée de la nudité à gérer. Et c'est une difficulté comme une difficulté technique, si tu veux. Donc on s'en empare et on explique. On fait de la pédagogie, en fait.
C'est tout.
Ouais. Pour la pédagogie, la communication, ça sauve beaucoup de choses dans la vie, globalement.
Ouais. Il y a des limites, par exemple, en termes d'écriture ou de costume.
Le nombre d'heures que l'artiste peut y passer.
Ouais.
Je pense qu'on peut toujours, même un numéro qu'on a fait il y a des années, on peut le réécrire, on peut le reprendre, on peut changer des choses. Donc en fait, non, il n'y a pas de limite. Non, globalement, il n'y a pas de limite.
Qu'est-ce que ça apporte ?
Tu veux dire à l'équilibre universel ? J'ai une réponse à ça.
D'une certaine manière. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène et puis de participer à ce genre de...
Je pense qu'être sur scène, il y a vraiment une partie de prise de pouvoir de la scène et de ce qu'on veut y dire. Donc c'est déjà un positionnement, une prise de confiance en soi, etc., qui est juste bonne pour le quotidien. Je lisais quelqu'un qui disait j'ai tourné des nippies devant 60 personnes hier, je peux peut-être m'imposer à cette réunion aujourd'hui et dire qu'en fait mon avis compte. Parce que finalement, c'est pas plus dur. Devant 60 personnes presque nues, c'est quand même un sacré truc. Et la personne a réussi à le faire. Donc, je pense que c'est ça le principal élément. C'est une prise de pouvoir d'avec soi-même et face aux autres.
Est-ce que ça participe un petit peu à cette espèce d'engouement que les gens ont pour les feuillages ?
Je pense, ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus envie de montrer qui on est, en se sentant légitime. Que n'importe qui on est, quel âge on a, quelle forme qu'on a, c'est aussi ça, c'est aussi rendre inclusif qu'est-ce qui est sexy. Et en fait, tout l'est, à partir du moment où on se le sent soi-même.
Et c'est pour ça que vous avez créé une école ?
Oui, notamment, effectivement, pour qu'on soit encore plus à le faire. Plus on est, plus moins il y aura de fétichisation moins le placer, plus il y aura de femmes qui pourront, ou de femmes ou d'hommes qui pourront, ou personnes non-binaires qui pourront s'exprimer. Voilà, l'important, c'est que les gens sortent ce qui est à l'intérieur, ce qui était caché parce que c'était pas admissible. Enfin, ce qu'ils pensaient ne pas être admissibles.
Et qui sont les gens qui viennent à l'école ? Est-ce que vous rencontrez des personnes qui ont été victimes de sexisme ou peu importe, hein, de n'importe quelle violence et qui ont besoin de se reconstruire ?
Oui, il y a beaucoup de personnes en vérité qui font ce chemin-là et le burlesque fait partie de leur chemin, les feuilles burlesques. Et là, à l'école, effectivement, ça peut aussi être le cas. Après c'est évidemment à la discrétion chacun chacune, mais je pense que tout le monde en fait quand on y réfléchit un peu a vécu des violences sexistes et les a vécues pour soi de manière plus ou moins violente, et le burlesque ça permet de les transcender et d'en faire quelque chose ou de les dépasser.
Alors quelle méthodologie on applique pour être bien ?
Alors petit A. Déjà c'est tout bêtement, mais là on est tout ensemble dans un groupe où il y a une bonne ambiance, on est 15 là, donc sur la première session, on a une deuxième session qui ouvre là en janvier, et il reste des places d'ailleurs, inscrivez-vous sur la billetterie LOSO de l'association. Mais du coup oui, en fait on est tous ensemble, on se soutient, il y a vraiment de la bienveillance, il n'y a pas de jugement, ça j'ai oublié de le dire, il n'y a pas de jugement dans le burlesque. Et notamment ce qu'on pourrait imaginer le corps idéal à la mode, c'est pas forcément celui-là qui va être le plus demandé ou le plus apprécié par le public. Au contraire, c'est quelqu'un qui peut-être dans la tête, on se dit « Ah, c'est plus compliqué pour elle, le public, il va être beaucoup plus soutenant », ce qui est super chouette, en fait. Pareil, comme s'il y avait un trou de quelqu'un qui chante et puis il a un oubli, le public va soutenir. Donc c'est vraiment un dialogue. Et donc on est ensemble, on se fait confiance, on a du coup Lola Rose qui nous accompagne aussi, donc celle qui nous fait cours, qui du coup nous accompagne, prend soin d'expliquer, et puis après c'est juste être à l'aise avec son corps, tout bêtement. Peu importe que ce soit de la danse ou de l'impro ou du théâtre, c'est être à l'aise avec soi, et ça vient par le fait de le faire dans une salle un dimanche tous les mois et de pratiquer en fait.
Mais on commence par quoi en fait ? On commence plutôt par des activités genre de la danse ?
Alors là, c'est l'approche de Lola, effectivement, de commencer par de la danse, mais c'est pas forcément la voie de tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, donc on travaille des chorégraphies qui permettent un peu de dénouer le corps, on va dire, ou d'enlever un gant de manière intéressante, par exemple, comme je disais, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire avec le moindre accessoire. Et puis, c'est juste aussi de prendre l'habitude de marcher en talons, ou au moins marcher de manière qui rentre dans le show qu'on a envie. On pourrait marcher en bottes, hein. Ça se pourrait, mais là, l'idée, c'est qu'on puisse aussi travailler sur des trucs. Il y a des mouvements plus faciles en talons. Pour le coup, des mouvements physiques qui sont plus, où le corps rend plus joli en talons. Du coup, on a aussi des gars, et les gars aussi mettent des talons, parce qu'il y a des choses plus belles en talons. En fait, c'est chacune qui vient un peu trouver son truc. Après, tout le monde n'est pas obligé de mettre des talons sur scène. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, comme je disais.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut comprendre que c'est une activité qui est mixte.
C'est ça. Alors, le premier groupe, pour l'instant, on est en majorité des femmes, effectivement.
Ouais. Et parce qu'en fait, pour les hommes, on aurait peut-être tendance à aller vers le drag, parce que c'est quasiment la même, c'est très très proche.
Et on est un peu des cousines, ouais, effectivement. Mais on a des garçons qui font du burlesque, on appelle ça les boylesques, d'ailleurs. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, tout le monde les adore, évidemment. Et moi, je trouve qu'au contraire, ils viennent apporter leur représentation de la masculinité et proposer souvent artistiquement des trucs que moi, je trouve hyper intéressants.
Par exemple
Je ne sais pas, un gars, par exemple, je pense à un numéro, alors je ne sais plus qui est l'artiste malheureusement, mais qui est un peu torturé par son travail, qui est assis à un bureau toute la journée, qui décroche un téléphone, et puis après, il part à l'armée. Et il y a ce côté un peu rock, un peu dur, qu'on a moins peut-être dans des numéros de femmes, où on va aller chercher d'autres choses. Et après, il finit quand même par aller vers toujours s'entendre avec soi-même. Donc ces numéros, je l'avais trouvé très intéressant. Puis il y a des numéros très drôles d'hommes aussi. Non, c'est pas forcément... les hommes qui font du burlesque ne font pas forcément chercher leur féminité. Ils s'en servent, mais c'est pas forcément le point d'intérêt comme chez les drags, par exemple.
Ouais, ils viennent juste faire passer un... Enfin, on fait juste passer un message, raconter une histoire, ouais.
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez un local?
On n'a pas de local, mais on a quand même un endroit où on fait très régulièrement des choses, c'est Olas Player à Brest, où on fait plusieurs shows à l'année, ils sont organisés toute l'année, ils sont sur notre agenda, sur notre site. Et voilà, on fait aussi des choses à Léo Ferret, du côté de Bellevue. Et puis là, on a pu du coup faire une grande soirée au Vauban, et c'était vraiment super top.
Ce serait un projet pour l'asso d'avoir son propre théâtre ou pas ?
Dans un futur lointain, ce serait top. Mais c'est bien aussi qu'on aille, lointain ou proche, ça dépendra des envies de chacune, mais c'est pas forcément une volonté en soi, parce que c'est bien aussi d'aller dans des bars, d'aller dans des cabarets, d'aller dans des endroits que les Brestois ou les locaux, on va dire, connaissent déjà, pour leur proposer quelque chose de différent. Par exemple, à la base, le Last Player, c'est un bar qui se veut à proposer plein de choses, mais l'image que les gens ont dans ce bar est pas forcément... les gens pensent juste que c'est un bar de geek, et puis c'est tout, quoi. Alors qu'en fait, ici, il passe plein de trucs super chouettes.
D'accord. Et vous avez des projets en cours à l'asso ?
Eh bien, la deuxième ouverture de la session, comme je disais, donc on a eu des demandes. Donc voilà, on ouvre une deuxième session là, en janvier, si je ne dis pas de bêtises, le 14. Voilà. Et après, on a effectivement là, en avril un show au Last Player qui se prévoit, et puis en juillet également. Et après, on recommencera un nouveau cycle.
D'accord.
Donc c'est ça les choses à venir.
Et les projets que vous proposez, les représentations que vous faites, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses classiques ou vous revisitez aussi, par exemple, le French Cancan, par exemple.
On a eu première session du festival une André Jean qui fait du pop cancan, qui est venue revisiter le cancan, puis faire un stage, etc. Donc on propose aussi des ateliers et des stages avec les artistes. Nationale en tout cas. Et voilà, donc elle est venue proposer ça, mais après on essaie aussi à chaque fois de proposer des numéros différents. Les scènes ouvertes du Last Player permettent aussi à des débutantes de venir proposer leur premier numéro, alors que sur le festival on prend vraiment des artistes chevronnés pour le coup.
D'accord, ok. Donc on se retrouvera.
Et c'est très varié. Ça change tout le temps.
Ça change tout le temps.
Et même un numéro qu'on a déjà revu, il ne sera pas pareil. C'est ça qui est chouette.
Bah, c'est tout ce qui est activité de création artistique. Oui, c'est l'art du spectacle.
Il y a toujours un accessoire qui a changé, un pas de danse qui a changé. Donc on ne s'ennuie jamais.
On ne s'ennuie jamais. Bon. Merci beaucoup, Sigrid, d'être venue nous expliquer tout ça. Bah oui, ça passe.
Ah oui, c'est vrai que ça passe. Je regardais l'heure.
À bientôt.
À bientôt, merci.